Ce matin, donc, je nous invite à tourner dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Nous lirons les versets 18 à 22. 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. L'engagement d'une bonne conduite envers Dieu. J'ai hésité avant de toucher, de prendre ce texte-là, parce que c'est un texte qui comporte certaines difficultés, mais on ne va pas toucher à cela ce matin, mais aussi parce qu'il fait référence au déluge, etc. Je me suis dit, on a des gens qui vont être invités, lorsqu'ils vont entendre le mot déluge, ils vont dire, mais où est-ce qu'on est? On est chez des hommes des cavernes, de croire au déluge ou quoi que ce soit. Mais en même temps, on parle aussi de résurrection, de salut, de vie nouvelle. Et en fait, on n'a rien caché. Hein? Et je veux juste vous rassurer, je ne suis pas anti-scientifique, je ne suis pas non plus climato-sceptique en tant que soi, quoique, faisons attention, car lorsqu'il est question de déluge, c'est dur à battre comme changement climatique. Vous savez ce qui s'est passé à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, nous croyons que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et malgré les difficultés qu'on peut y rencontrer, moi je me souviens la première fois que j'ai ouvert la Bible en tant que telle, j'étais venu au Christ, mais je ne connaissais rien. J'ai commencé, je me croyais intelligent, je me suis dit, moi je vais étudier toute la Bible, commencer avec le livre de la Genèse, la création. En partant, j'ai fait un saut, je suis arrivé au déluge, et tout le reste, tout ce qui a suivi après aussi, alors je me suis dit, je vais aller dans le livre de l'Apocalypse, le dernier. J'ai fait un autre saut. Ça m'a humilié, j'ai commencé à lire les évangiles. Amené à Dieu par les souffrances de Christ, c'est le premier point. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. L'apôtre s'adresse ici à des chrétiens. On pense même que c'était des jeunes communautés chrétiennes, donc, qui faisaient face à beaucoup d'opposition de la part des non-croyants autour d'eux. Et ça, bien sûr, en raison de la foi, de leur foi dans le Fils de Dieu, dans leur désir de marcher désormais dans la voie de la vérité. Alors, pour les encourager, l'apôtre leur rappelle que leur Sauveur a lui-même souffert. Mais lui, il n'a pas souffert pour les mêmes raisons. En fait, il a souffert, il est vrai, parce que les gens autour de lui s'opposaient, n'est-ce pas, à son message, s'opposaient à sa manière de vivre, à ce qu'il proclamait, mais il a souffert de manière particulière, nous est-il dit, pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Il est le seul qui a pu faire cela, mourir pour les pécheurs que nous sommes, afin de nous amener à Dieu. Le juste pour les injustes. Celui qui aurait dû me juger, s'est laissé juger à ma place, afin que je sois justement sauvé du juste jugement de Dieu. Afin de nous amener à Dieu, le verbe amener, prosago, signifie conduire, approcher, ouvrir un accès. Mêlé, c'est un terme qui est employé par ce qu'on appelle la version grecque de l'Ancien Testament, dont les apôtres eux-mêmes se sont servis, qu'on appelle aussi la Septante. Et ce terme-là, ce verbe-là, il est utilisé avec l'idée de consacrer pour le service divin. Christ est mort pour nos péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener, oui, mais afin de nous consacrer à Dieu. Il a ainsi porté en son corps, dit l'apôtre Pierre, sur le bois, le châtiment que méritaient nos offenses. Il a payé le prix requis, la pénalité exigée pour que nous ayons la paix avec Dieu, afin de nous réconcilier avec lui par le sang de la croix et afin que nous puissions désormais lui appartenir et vivre entièrement pour lui. C'est le but du salut. C'est là l'évangile. Christ, qui est mort pour des pécheurs, afin de les réconcilier avec Dieu, avec son Père, et afin que désormais ces pécheurs-là vivent pour Dieu, se consacrent à Dieu, corps et âme. L'apôtre ajoute que Jésus a été mis à mort quant à la chair et a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est l'idée donc qu'il a expérimenté le salaire du péché que j'aurais dû vivre, qui aurait dû revenir sur... Que c'est moi qui aurais dû donc l'expérimenter, ce salaire-là. Et il a donc goûté la mort, mais il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et il ajoute, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Texte difficile, là. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Personnellement, pour moi, c'est très, très simple. Christ, dans cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, le Saint-Esprit, hein, il nous est dit que Christ lui-même, avant de venir en ce monde, parce que Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu lui-même, par cet esprit, il s'est adressé à la génération de Noé. Par l'entremise de Noé, que Pierre appelle aussi un prédicateur dans la justice dans sa deuxième épître, déjà le Seigneur appelait les hommes et les femmes à la repentance. À l'époque de sa patience, qu'on pourrait traduire à l'époque de sa longanimité, la grande, grande, grande patience de Dieu. J'ai presque envie de dire patience élastique de Dieu, sachant bien sûr qu'à un moment donné, l'élastique arrive à sa fin, hein, de capacité. Et l'idée, bien sûr, c'est de rappeler ceci, c'est que pour ceux qui souffrent pour le nom du Christ, de se rappeler qu'il y en a eu d'autres avant aussi, mais qu'en fait, pour ceux qui refusent d'entendre, ben, il y aura aussi, bien sûr, des conséquences à cela. Et il ajoute qu'à ce moment-là, justement, Noé et les siens ont été sauvés en embarquant dans l'arche, selon ce que Dieu leur avait dit, et ils ont été sauvés donc des eaux du déluge. Comme je le disais tout à l'heure, la question du déluge, je ne vais pas toucher à cela ce matin, je dirais juste qu'il y a, je pense, beaucoup plus de preuves scientifiques qu'on ne le croit sur la réalité d'une catastrophe universelle que la Bible appelle le déluge. Sans compter le nombre extraordinaire de versions de celui-ci dans les religions païennes, les anciennes religions, hein, dont la plus connue, c'est le récit de Gilgamesh et le récit babylonien, mais très, très différent. La différence entre tous ces récits-là et celui de la Bible, c'est qu'on n'est vraiment pas devant le même Dieu. Et on n'est pas non plus devant la même justice, les mêmes motifs. Lorsqu'on lit le récit biblique, celui-ci s'élève au-dessus de tous les autres d'une façon absolument extraordinaire. Ça nous parle d'un Dieu saint, d'un Dieu juste, d'un Dieu qui hait le mal, et un Dieu extrêmement patient, mais qui à un moment donné doit agir, doit nécessairement manifester sa justice au sein de ce monde. Soit dit en passant, il y a un film on connaît tous l'auteur, cherchons, non, je viens de le perdre, Russell Crowe, hein, qui a fait un film sur le déluge en 2014. Ça vous dit quelque chose? Un très bon acteur. Hein? Bon, je ne dis pas que tous ses films sont extraordinaires, mais quelques-uns. Un homme d'exception. Quel film? C'est la première fois que vous voyez cela, hein, il vous embarque complètement là-dedans, Gladiateur, etc. Mais... pour celui de sur Noé, ça c'était quant à moi un flop total. Parce que premièrement, c'est une récapitulation donc de récits bibliques, mais auquel on a donné un sens tout autre. L'idée est que Dieu va punir les hommes, décide de punir les hommes parce qu'ils détruisent la terre. C'est très actualisé comme message, hein? Et un Dieu, donc, d'ailleurs, très, très arbitraire, que même Noé, à un moment donné, a de la difficulté avec ce Dieu-là, et il réussit à faire changer Dieu d'avis à un moment donné. Hein? C'est pas du tout ce qu'on trouve dans les Écritures. Faisons très attention. C'est un peu la même chose avec les anciens récits. Hein? Là, on sait qu'il y avait un récit, véridique, n'est-ce pas, d'un événement qui s'est passé, mais les hommes aiment, par tous les moyens possibles, hein, de transformer ces choses et les mettre à leurs mains, hein, pour leur donner le sens qu'ils veulent bien leur donner. Mais si on regarde le texte tel qu'il est, ça nous parle d'un Dieu juste qui ne peut souffrir le mal. Il nous est dit qu'à l'époque du déluge, Dieu vit la méchanceté des hommes, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voici la raison. Il y avait tellement d'iniquité dans le monde. Alors, il nous est dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il fait affliger en son cœur, et il a décidé donc de tout détruire. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et donc, ces hommes et ces femmes qui ont refusé de croire à l'époque, hein, alors que Noé et sa famille ont été préservés, ont été sauvés donc du châtiment, du jugement qui est venu sur la terre, eh bien ceux-ci, nous est-il dit, sont maintenant en prison. Ils attendent donc le jugement dernier qui va venir parce qu'ils ont refusé d'entendre le Seigneur Jésus de nous mettre en garde dans son discours eschatologique dans Matthieu chapitre 24, les versets 37 à 38. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, parce qu'il est venu une fois, mais il va revenir. Il est venu donner sa vie pour le salut des hommes et des femmes qui vont croire en lui, mais il va revenir un jour pour établir la justice, faire cesser le péché dans ce monde. Il arrivera du temps. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pierre de nous dire, cependant, que le châtiment ne sera pas par les eaux, parce que Dieu a fait une promesse. Il n'y aura plus jamais de déluge par les eaux, mais un châtiment qui va venir par le feu pour mettre fin à la méchanceté qui sévit en ce monde. Donc Christ qui a donné sa vie pour les injustes, lui le juste pour les injustes. Deuxième point, les versets 13 à 14, ce que signifie, pas 13 à 14, mais ce que signifie le baptême. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors si Pierre a fait mention du déluge, c'est parce qu'il a une idée en tête. Il s'adresse à des croyants qui sont en difficulté, il veut les encourager, et il leur rappelle le baptême qu'ils ont reçu lorsqu'ils se sont convertis donc au Seigneur Jésus-Christ. Et il leur rappelle que le déluge lui-même était une figure, un type, un symbole du baptême chrétien. Baptême chrétien qui est l'ordonnance que Christ, qui est devenu le chef suprême de l'Église, il n'y a qu'un chef suprême de l'Église. Il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Hein? Et donc c'est une ordonnance, on dirait aussi un sacrement que le Christ a institué et qui consiste en une immersion totale. De même que le déluge est venu et a immergé le monde totalement, le baptême, de par le terme même grec, baptisma, veut dire une immersion totale. C'est pour ça que ça nous prend un peu plus d'eau que dans certaines églises chez nous. Et donc l'immersion totale du disciple, parce que à l'image du déluge, le baptême nous parle donc d'une délivrance et aussi marque une rupture entre une réalité passée et celle qui a désormais pris place. Noé et les siens sont entrés dans l'arche et lorsqu'ils en sont ressortis, c'était littéralement un monde nouveau, transformé. Bien sûr, ce n'était pas encore le ciel, mais l'idée c'est que l'ancien monde avait passé pour laisser place à quelque chose de nouveau. Lorsque le croyant entre dans l'eau, hein, c'est un symbole du fait que sa vie passée maintenant est enterrée, ensevelie avec le Christ qui a donné sa vie pour lui. Maintenant, ce n'est pas le baptême qui fait cela. Le baptême en est la représentation. Si quelqu'un veut se faire baptiser, désire être baptisé, c'est parce que cette personne l'a déjà vécu. Le baptême, c'est une prédication imagée, hein, de ce que la personne a expérimenté. Et puis, cette personne ne reste pas dans l'eau, bien sûr, parce qu'on n'aurait pas beaucoup de membres dans l'Église. La personne en ressort et le symbolisme, c'est qu'elle est désormais ressuscitée avec le Christ. Non pas corporellement, mais spirituellement premièrement, dans l'attente de la résurrection corporelle, comme le disait Cédric à l'ouverture de ce culte. L'apôtre Paul décrit dans sa deuxième épître adressée aux Corinthiens au chapitre 5, versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un s'est converti au Seigneur Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On ne voit pas encore toute la plénitude de cela. Nos corps continuent à vieillir. Nous sommes encore sujets à la maladie, etc. Le péché est encore une réalité. Et pourtant, celui qui est né de Dieu sait que quelque chose de très profond a pris place dans son âme. Son âme est revenue à la vie. Son âme partage la vie de Dieu lui-même, qui est une vie incorruptible. Et en ce sens, il est une nouvelle création. Et en ce sens, cette personne d'ailleurs, tout en demeurant sujet de ce monde à bien des égards, est désormais, surtout et avant tout, sujet du monde à venir. Cette personne attend quelque chose de nouveau, de tellement meilleur que ce que nous voyons autour de nous. Alors, et l'apôtre de spécifier que le baptême d'eau, n'est-ce pas, qui symbolise le salut en Christ Jésus, n'est pas la purification des souillures du corps. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Eh bien, à cette époque-là, tant dans le monde païen, dans les religions, et comme dans de nombreuses religions encore aujourd'hui, n'est-ce pas, et dans le judaïsme aussi, en fait, dans le judaïsme, plutôt dans la loi de Moïse, donc, que Dieu a donnée au peuple d'Israël sous l'ancienne alliance, eh bien, il y avait une institution de nombreux rites, justement de purification par l'eau, des ablutions, de toutes sortes. Maintenant, la raison de cela, c'est l'idée, bien sûr, que on essaie de se rendre pur devant Dieu, devant la divinité, devant les hommes. On commet des fautes, des erreurs, etc. On se lave d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est même un bain complet, quoi que ce soit. Et effectivement, on retrouve ça dans l'Ancien Testament aussi. Mais lorsqu'on lit bien l'Ancien Testament, on voit encore une fois que le texte se démarque de toutes les autres religions, de tous les textes religieux, parce qu'en fait, si Dieu a donné ces choses-là, ce n'était pas pour que les hommes se confient en elles, mais il voulait leur enseigner une vérité très profonde. Le besoin de purification, mais non pas du corps premièrement, mais bien du cœur. La purification du cœur. Et vous savez, ce réflexe-là de chercher une purification extérieure, il est très très humain, il est universel, même pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de religion. Et ça prend toutes sortes de formes ici. On a la forme, bien sûr, d'ablution, hein, le fait de se laver avec de l'eau et de se donner l'impression que les choses ont passé, c'est terminé, n'est-ce pas, qu'on est en règle, etc., etc. Mais ça peut prendre tellement d'autres formes. Et en fait, cela est possible et on peut se conforter dans tout cela parce que nous évaluons à partir de certaines normes. Je parle ici au niveau moral et éthique. Des normes sociales, nos propres normes personnelles, peut-être les normes d'une certaine religion, d'une philosophie aussi. Mais lorsque nous commençons à nous mesurer avec celles de Dieu, telles qu'on les retrouve ici dans les Écritures, notamment la loi de Dieu, les commandements de Dieu, et lorsqu'on commence à comprendre les commandements de Dieu, on réalise qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment nous purifier de ce qui souille nos cœurs. On réalise que c'est profond. C'est tellement attaché à nous. Et lorsqu'on ouvre le livre assis, on découvre qui est Dieu lui-même. Et là, on découvre qu'on est coupable devant lui. Et là, on peut échapper, grâce à cela, au piège des pharisiens. Jésus leur reprochait de nettoyer l'extérieur de la coupe et non l'intérieur. En d'autres mots, vous paraissez bien de l'extérieur, de beaux habits, des rites, des manières de faire, des belles prières. Hein? Et ça, c'est tout le faux semblant de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Quelle que soit, encore une fois, sa religion, quelle que soit sa philosophie, son état, son statut social ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on se mesure, hein, avec les normes divines, on réalise qu'on a besoin d'une purification intérieure très, très, très profonde. Et là, on réalise qu'il n'y a qu'un moyen possible, un endroit possible pour cela. C'est la personne de Christ. Christ qui a donné sa vie au calvaire afin que nous puissions ainsi être délivrés de nos fautes et transformés par la puissance de son Esprit Saint. Maintenant, comme je disais, même à notre époque notamment, n'est-ce pas, on peut penser que le fait de faire certaines œuvres, etc., certaines activités, d'avoir certaines pensées positives, c'est suffisant justement pour nous mettre en règle avec l'univers, la divinité, les autres. Notamment, peut-être ce qui est plus à la mode aujourd'hui, un petit peu en contexte avec l'histoire du climat et tout cela, hein, le fait de chercher à préserver la planète en cherchant à être plus éco-responsable. Et je n'ai rien contre ça, bien au contraire, il y a des vérités là-dedans. Mais vous savez, si on commence à mesurer les choses avec l'échelle divine, on trouve qu'il y a des impératifs beaucoup plus importants que sauver la planète en elle-même, ce qui, encore une fois, il y a une place pour cela, bien sûr. Il y a des choses beaucoup plus importantes, telles que le respect de la vie. Quand je dis de la vie, c'est la vie humaine. On parle beaucoup de la vie animale, mais la vie humaine. Dans une société où on considère maintenant l'avortement comme une chose due, ou l'euthanasie, si nous confrontons ces pensées-là, cette manière de penser avec les Écritures, on va réaliser que nous avons un problème. L'institution du mariage, qui est pratiquement abandonnée, et qui a été corrompue, n'est-ce pas? Le mariage conçu par l'homme, pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, comme une alliance entre un homme et une femme. On peut parler de la pureté sexuelle et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le livre saint, on découvre qui est Dieu. À quel point il est grand, il est puissant, il est bon, il est miséricordieux, il est justice, et à quel point ses commandements sont à son image. Et donc, si je vais à l'encontre de ses commandements, si je les transgresse, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose de mauvais dans mon cœur. Et donc, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. On n'est pas plus en règle parce qu'on est passé par une immersion totale, pas plus qu'on reçoit un petit peu d'eau sur la tête, ou n'importe quel autre rite, quel qu'il soit. C'est impossible. Mais l'apôtre d'ajouter, mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Un engagement, on pourrait traduire par une demande. Bien sûr, certains préfèrent le terme demande parce qu'ils nous disent que ça parle beaucoup d'humilité, de notre dépendance face à Dieu, le fait qu'on n'a pas la capacité par nous-mêmes d'accomplir sa volonté, cela est vrai. De notre côté, même en tant que chrétien, même moi, mon épouse et moi, là, lorsqu'on était encore très très jeunes, mais on était des jeunes croyants aussi, on s'est engagés dans les liens du mariage. Il y a un engagement devant Dieu, devant les hommes. N'importe quel croyant, n'est-ce pas, qui signe une hypothèque, s'engage. Je me fais embaucher par quelqu'un, je m'engage envers cette personne et l'entreprise. Donc, je pense que le mot engagement est bien ici. Nous avons vu que Christ est mort pour nous amener à Dieu, pour nous consacrer à Dieu. Ainsi, le baptême, c'est un engagement. C'est un moment où nous disons à Dieu, « Je me consacre à toi. Je me déclare disciple de ton Fils. Je réponds à la grâce que j'ai reçue en lui. » Lui qui a souffert pour moi, afin de m'amener à toi, de me consacrer à toi. Et donc, je me mets à part et je déclare que je crois en ton Fils bien-aimé et que je désire désormais vivre pour lui, marcher dans ses voies, marcher selon ses enseignements, et quel que soit le prix à payer pour cela. Il n'y a rien ici de fanatique. Si on lisait, on avait le temps de lire toute la première épître de Pierre, nous verrions que l'apôtre, d'ailleurs, vient combattre certaines dérives, alors que des croyants vivaient des choses très difficiles, des injustices. Et ce qu'il leur dit partout, c'est « Soyez doux, vous qui avez reçu la grâce de Dieu. Non, gardez-vous du fanatisme, gardez-vous de l'esprit de zélote, du pharisaïsme, de l'orgueil. » Et il leur dit « Soyez soumis à toute autorité. Les chrétiens ne sont pas des révolutionnaires. Ils ont connu plus qu'une révolution, mais une résurrection de leur cœur. Il dira aux esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Dans d'autres textes, on voit que les maîtres chrétiens sont appelés à prendre soin de leurs esclaves en mettant de véritables êtres humains. Que les femmes soient soumises à leur mère, que les hommes honorent leurs femmes. C'est une révolution, mais une révolution au niveau du cœur. Très, très profonde, qui appelle donc des hommes et des femmes à une grande humilité. L'apôtre décrit au chapitre 4, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu dans le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » C'est-à-dire de ce côté-ci de l'existence, avant de goûter à la résurrection. C'est ainsi en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, ils vous calomnient, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Je m'adresse à ceux qui vont être baptisés dans quelques instants. Ce matin, vous vous engagez. Je prends pour acquis que vous vous engagez parce que vous êtes déjà engagés. Vous manifestez cet engagement-là en vous faisant baptiser. Mais désormais, vous vous consacrez à Dieu, corps et âme, à accomplir sa volonté. lors même que cela pourrait être mécompris par beaucoup de gens autour de vous. L'important pour l'être humain, ce n'est pas d'être agréé par les hommes, mais par Dieu lui-même. C'est beaucoup plus important. J'ai vu bien des employés être agréés par leurs compagnons de travail, mais non par leur patron. Et parfois, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le congédiement. L'important, ce n'est pas l'opinion des hommes, mais qu'est-ce que Dieu pense? 1 Pierre chapitre 4, versets 15 et 16, « Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'est ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en ait point honte et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. » En d'autres mots, ne soyez pas des gens qui vous mêlez de la vie des autres. Et bien sûr, il va même parler ici de meurtre, de vol, etc. Mais l'idée est ceci. Vous devez vivre de façon à glorifier Dieu autour de vous. Mais si en se faisant réellement, si vraiment vous mettez en pratique les Écritures et que ça apporte sur vous l'opprobre, réjouissez-vous tout simplement. Réjouissez-vous. Car Christ a souffert, mais Dieu l'a ressuscité. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, c'est ceci, vivre selon les commandements de Dieu, ce qui veut dire, on l'a déjà vu, n'est-ce pas, soumission aux autorités, respect des rôles au sein du mariage, hein, pureté sexuelle, etc., etc. Des choses qu'on dirait très, très simples, qui, à vue humaine, ne sont pas nécessairement les choses qui peuvent paraître les plus glorieuses, mais qui le sont devant Dieu, qui sont extrêmement précieuses, et surtout des choses bonnes pour l'âme. Car les commandements de Dieu ont été donnés pour le bien de l'homme. Dieu sait comment je dois fonctionner. Pourquoi tant de détresse dans ce monde? Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant de misère? Parce qu'on fait fi des commandements de Dieu et qu'on croit pouvoir s'en sortir sans Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui me sauve le baptême? Non, cet engagement. Le fait de servir le Christ par la résurrection de Jésus-Christ. En fait, ça, c'est la source même de tout le salut. C'est l'idée ici que tout cela a été rendu possible parce que le Fils de Dieu a donné sa vie pour vous, mais le Père l'a ressuscité. Et cette vie de résurrection est venue vous transformer. Ainsi, la vie chrétienne, c'est plus qu'une simple morale. C'est plus que le fait d'adhérer de façon nominale à une religion, même de père en fils, ou selon la tradition, hein, ou une religion nationale, ou quoi que ce soit. Le christianisme, c'est une puissance de résurrection qui transforme le cœur et l'âme, que seul Dieu peut opérer. Et c'est ce à quoi fait référence le baptême. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un peut s'engager, parce qu'il goûte, il expérimente la puissance de résurrection de Christ qui transforme le cœur. Et pour terminer, ce Christ, il est désormais, après avoir souffert, après avoir été insulté, après avoir vécu une grande humiliation, avoir été méconnu des hommes, on a même blasphémé son nom, maintenant il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. En d'autres mots, ce Fils qui lui-même a marché à contre-courant, qui a été rejeté de tous, méconnu, eh bien aujourd'hui, il est dans la gloire. Et c'est ce qui attend tous ceux et celles qui se repentent de leurs péchés, qui se tournent vers Dieu, qui croient en son Fils. Hein, leur destinée désormais, c'est la gloire éternelle avec le Fils. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout lui appartient. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce dont je vous ai prescrit. » D'où vient l'autorité de ceux qui baptisent ainsi? Elle vient du Christ lui-même. De même que l'autorité du Christ venait de son Père. Et ainsi, ceux qui viennent à lui, qui se confient en lui, ont cette grande espérance. Un jour, nous est-il dit, même si nous sommes méconnus aujourd'hui, même s'ils le suivent coûte peut représenter un coût parfois très grand. Nous savons que le meilleur est à venir. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ta parole ce matin, pour le rappel qu'elle nous fait que ton Fils a donné sa vie pour des pécheurs. Dans ton amour, ô Dieu, pour le monde présent, alors que tu aurais pu tout simplement faire tomber ton châtiment, manifester directement ta colère, il t'a plu de manifester ta patience et d'offrir le salut. Ton Fils est venu, lui qui est un avec toi de toute éternité, et il s'est fait serviteur. Il s'est fait homme afin de souffrir sur la croix, d'expérimenter la passion, alors que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Et ainsi j'en ai été délivré. Cela a été rendu possible lorsque je me suis tourné vers lui, reconnaissant mon besoin de salut, de rédemption, de pardon de mes péchés, de mes transgressions de tes commandements, d'avoir fait fi de toi, Seigneur, d'avoir blasphémé ton nom même, d'avoir marché de façon orgueilleuse, comme s'il est possible à l'homme de faire fi de son Créateur. Et alors, Seigneur, par ton Fils, j'ai été amené à toi, réconcilié mais aussi consacré. Seigneur, merci pour une telle grâce. Notre Dieu, notre Père, puisses-tu, par ta grande bonté, Seigneur, ouvrir le cœur, les pensées de beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous, encore une fois. Merci pour donc nos quatre candidats qui maintenant vont passer par les eaux du baptême. Nous te prions, notre Dieu, de les bénir abondamment, de bénir leur témoignage, notre Père. Et puisse le message de l'Évangile continuer, notre Dieu, à courir dans cette ville et dans cette province, afin que d'autres puissent venir à la même espérance que la nôtre, cette même certitude, puissent avoir les deux pieds sur le roc qu'est le Seigneur Jésus-Christ, et non pas sur les sables mouvants de toutes les pensées de ce monde, les philosophies, les religions, Seigneur, qui, malgré tout ce qu'elles promettent, Seigneur, ne sont que néant. Mais en Christ, nous trouvons la certitude, nous trouvons le salut. Nous ne trouvons pas seulement de belles paroles, mais une puissance de transformation. Une puissance de transformation, notre Dieu, alors que nous retrouvons une véritable communion avec toi. Sois béni ce matin en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.